This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense à Ewer en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Bruno Bertrand. Cette année-là donc, 1968, est une des années les plus importantes de l'après-guerre pour la France. C'est l'année de l'entrée en vigueur de la Constitution de la Ve République, dont les principes guident encore aujourd'hui le fonctionnement de la France. En l'espace d'une seule année, tout a basculé. La Ve République s'est littéralement effondrée et la Ve a été promulguée. Alors nous allons voir comment les événements se sont enchaînés. Il se trouve qu'à ce moment-là, donc en 1968, nous sortons de différentes guerres coloniales. C'est l'Indochine en 1954, c'est la Tunisie 54-55, c'est le Maroc, protectorat français, et puis c'est l'Algérie. On est donc en pleine guerre d'Algérie. La France s'est reconstruite peu à peu depuis 1944. C'est ce que l'on appelle, l'Empire français devient assez lourd et les aspirations des peuples se font sentir. Les gouvernements de la Quatrième République se succèdent cette année-là à une vitesse incroyable. La gauche française, quant à elle, est au pouvoir autour de la SFIO, celle de Guy Mollet, est partagée entre à la fois certains décolonisateurs et certains colonialistes qui sont favorables à l'Algérie française. L'Algérie elle-même est minée par la guerre dite de pacification et elle va offrir un terrain d'affrontement à ses exemplaires.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Vous aurez bien sûr reconnu le poinçonneur des Lilas, premier succès de Serge Gainsbourg qui fait parler de lui donc en 1958. Un titre qui est noyé dans un album et qui n'était pas destiné à devenir un tube et qui pourtant l'est devenu puisque jusqu'à nos jours, les différentes interprétations se sont multipliées. Alors, cette année-là, donc le 15 avril, eh bien, la crise gouvernementale est totale. Félix Gaillard, président du Conseil, est mis en minorité et personne n'est candidat à sa succession. Le 9 mai, après de multiples consultations, le président de la République, René Coty, président potiche, désigne Pierre Flimelin pour former un gouvernement et ce gouvernement sera investi le 13 mai pour démissionner le 28 mai. Il n'aura donc duré que 15 jours. Le 15 mai, en Algérie, les généraux qui vont jouer un très grand rôle durant tout le début de la Ve République, les généraux, donc Massu, Salan, Zeller et beaucoup d'autres, en appellent à De Gaulle, lequel se tait, judicieusement d'ailleurs. Le général Massu forme un comité de salut public en référence à la Révolution française, ce qui ne manque pas d'ironie historique. L'état d'urgence est décrété le 16 mai par l'Assemblée nationale et le président Coty, complètement dépassé par les événements et devant le désordre parlementaire, fait appel à De Gaulle le 29 mai. Celui-ci peut alors sortir de son silence et tenter de former un gouvernement dit de transition. Le franc est dévalué de 20%. De Gaulle va alors déclencher une formidable prise de pouvoir que François Mitterrand appellera de son côté, un coup d'État permanent.
René Coty pressent Pierre Flimelin pour prendre la tête du 24e gouvernement de la 4e République. Flimelin passe pour être favorable à un compromis avec le FLN. La réponse du général Salan, commandant en chef en Algérie, claque comme une gifle au visage du régime. L'armée française, d'une façon unanime, sentirait comme un outrage l'abandon de ce patrimoine national. On ne saurait préjuger sa réaction de désespoir. Nous sommes le 9 mai 58. Encore quelques jours et la 4e République sera à terre. L'exécution par le FLN de 3 prisonniers français va précipiter les choses. Elle donne prétexte aux activistes d'Alger pour une manifestation de masse. Le 13 mai, la foule prend d'assaut les bâtiments publics. Celui du gouvernement général est occupé. Paris remet à Salan les pleins pouvoirs pour ramener le calme. Grotesque, il les avait déjà pris. Massu, à la tête d'un comité de salut public, annonce qu'il en appelle au général De Gaulle. La foule répond en chantant la Marseillaise et en criant « Vive De Gaulle !» À Paris, partisans et adversaires de l'Algérie française s'affrontent dans la rue. On est au bord de la guerre civile. L'Assemblée nationale prend peur. Dans l'affolement, le gouvernement retire à Salan les pleins pouvoirs confiés quelques heures auparavant. Il refuse de les rendre et le lendemain, au balcon du gouvernement général, en appelle à De Gaulle. La 4e République va mourir comme elle était née, sous la pression de l'armée. Il ne reste plus à De Gaulle qu'à sortir de son silence stratégique.
Ce qui se passe en ce moment en Algérie par rapport à la métropole et dans la métropole par rapport à l'Algérie peut conduire à une crise nationale extrêmement grave.
René Coty n'a pas d'alternative autre que faire appel à De Gaulle, qui se rend en majesté à l'Assemblée nationale, recevoir les pleins pouvoirs.
De Gaulle donc va former un gouvernement provisoire, dit de transition, et puis il va se rendre à Alger pour y faire un discours absolument mémorable. Entouré des généraux qui l'ont soutenu, qui ont fait appel à lui, il ne prononcera jamais l'expression « Algérie française », mais tout le monde le croira. En fait, il ne le dira qu'une seule fois, c'est à Mostaganem, lors d'un déplacement dans une des régions algériennes. En réalité, ce à quoi on assiste, mais on ne le sait pas, c'est que De Gaulle fait entrer la politique dans l'ère de la communication. Et au fond, il illustre un vieil adage qui consiste à dire que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Puisqu'à l'image de certains de nos leaders d'aujourd'hui, eh bien, tout ce qu'il va dire, il fera exactement le contraire. Il parle de fraternité, de patrie et de référendum pour la nouvelle Constitution. C'est le fameux « je vous ai compris ».
Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Je dis la rénovation à tous égards, mais très justement, vous avez voulu que celle-ci commence par le commencement, c'est-à-dire par nos institutions, et c'est pourquoi me voilà. Magnifique d'hommes qui, d'un bout à l'autre, quelle que soit leur communauté, communient dans la même ardeur et se tiennent par la main. Et bien de tout cela, je prends acte au nom de la France. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière.
Voilà, à l'issue de le discours est bien sûr un petit peu plus long. À l'issue de ce discours et d'un voyage dans les différentes provinces algériennes, le général de Gaulle aura calmé l'insurrection qui risquait de se produire en Algérie. Ce front-là étant calmé, il va pouvoir développer son action sur l'ensemble de l'Afrique et puis sur la métropole, bien entendu. Alors, le 3 juin, l'Assemblée nationale vote le pouvoir de réviser la Constitution. Donc, toute une équipe se met au travail et essaie de rédiger donc cette nouvelle Constitution. C'est Michel Debré, le père de l'actuel président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, qui est le principal artisan de cette Constitution de la Ve République. Et le 20 août, eh bien, le général de Gaulle fait une tournée en Afrique pour présenter la nouvelle constitution et notamment ce qu'il appelle la communauté française qui va succéder à l'Union française. Ainsi, il va solliciter les différentes colonies françaises et leur présenter l'alternative qui est la leur, c'est-à-dire soit rester dans la communauté française, soit opter pour une indépendance pure et dure. Alors, au cours de ce voyage, évidemment, le général de Gaulle pense que bon, les choses vont se passer à peu près normalement et qu'il n'y aura pas de... disons, de rebelles à cette décision. Et lorsqu'il va arriver en Guinée, alors là, ça va être la gifle. Car la Guinée va opter pour l'indépendance totale. Et devant, en présence de De Gaulle, eh bien, Sékou Touré, qui est le leader, qui est le maire de Conakry, qui est le leader de ce pays, de la Guinée, donc, va lui dire que non, qu'il refuse la collaboration avec la communauté française et qu'ils veulent aller vers une indépendance pure et dure. Alors c'est le début de ce qu'on appellera plus tard la Francafrique, c'est-à-dire que un certain nombre de pays qui vont choisir l'indépendance vont être durement traités et un certain nombre d'autres vont être mieux traités et ce qui va entraîner des relations de suggestion entre le gouvernement français et les différents chefs d'État africains. Mais nous y reviendrons dans un prochain épisode parce que c'est un sujet vraiment à part entière. Donc, De Gaulle fait son tour d'Afrique et il revient en France. Et le 4 septembre, eh bien, il présente les principes de base de la nouvelle Constitution, place de la République à Paris, dans un décor absolument extraordinaire que, si on le regarde aujourd'hui, on pourrait rapprocher de certains décors, peut-être que l'expression est très forte, mais un petit peu néo-totalitaire.
Jour anniversaire de la naissance de la Troisième République qui a été choisie par le gouvernement du général de Gaulle pour date de naissance de la Cinquième. C'est place de la République où 100 travailleurs recevaient la Légion d'honneur que le général de Gaulle a proposé aux Français la nouvelle Constitution.
Dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. La nation qui seule est juge approuvera ou repoussera notre œuvre, mais c'est en toute conscience que nous la lui proposons.
Et le général de Gaulle poursuivait en exposant que les principes de la nouvelle Constitution déterminent
qu'il existe au-dessus des querelles politiques, qu'il existe un arbitre national élu par les citoyens qui ont un mandat public qui soit chargé d'assurer le fonctionnement régulier des institutions, qu'il existe un gouvernement qui soit fait pour gouverner, à qui on en laisse le temps et la possibilité, qu'il existe un Parlement destiné à représenter la volonté politique de la nation, à voter les lois, à contrôler l'exécutif, mais sans sortir de son rôle. Voilà, Françaises, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Vive la République, vive la France!
Ainsi donc, la campagne s'ouvre pour le référendum. Le 24 septembre est formée l'Union pour la Nouvelle République, l'UNR, qui est le parti du futur président sous la présidence de Jacques Soustelle qui, ironie du sort, est encore, lui, Algérie française. Il aura d'ailleurs, par les années suivantes, quelques ennuis à ce propos. Et donc, le 28 septembre, eh bien, le oui va triompher avec près de 80% des suffrages. Et le général de Gaulle, donc, par la suite, mais nous y reviendrons, sera élu président de la République à la fin de l'année. Ce qui veut dire que du 13 mai au 20, je crois que c'était le 28 décembre 1958, eh bien, il aura fallu que ces quelques mois pour passer d'une République à l'autre et d'un gouvernement à un autre. Mais pendant ce temps, eh bien, un musicien est en train de changer, lui, de manière de faire, et c'est Miles Stones.
Thank you.
Milestones, ce morceau éponyme d'un album qui va marquer une différence fondamentale entre le premier Miles et le second. Je dis le second parce qu'il y en aura beaucoup d'autres par la suite, probablement. Le musicien le plus connu de toute l'histoire du jazz, Miles Davis, finit avec sa période bebop, la période d'imitation, de collaboration, d'échange avec des musiciens dont il s'entoure. Et là, il se passe quelque chose et c'est l'avènement de ce qu'on appellera plus tard le jazz modal, notamment dans ce morceau et dans un autre morceau qui est Straight No Chaser, une composition de Monk dans le même album. Cette révolution va donc a lieu avec des musiciens de très grand talent, puisque au saxophone alto, nous avions Cannonball Adderley, au saxophone ténor John Coltrane, à la basse au piano Red Garland, Paul Chambers à la basse, et l'un des maîtres de la batterie moderne, Philly Joe Jones. Voilà, demain nous poursuivrons dans cette année 58, décidément je me trompe, dans cette année 58, avec la suite des événements et la prise de pouvoir par le général de Gaulle. Mais c'est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Ça ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte J.W.R. en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.